BFM Business, 500 millions d'Européens, avec Euranet Plus. Yann-Anthony Noguès.
Bonjour et bienvenue à Bruxelles pour ce nouveau numéro de 500 millions d'Européens. Aujourd'hui, nous allons parler d'agriculture en plein contexte de crise agricole. À quelques jours, une dizaine de jours de l'ouverture du Salon de l'agriculture à Paris, et ce alors que Stéphane Le Foll, le ministre de l'Agriculture, est revenu, je reprends les termes de certains, bredouille de Bruxelles lundi dernier, alors qu'il demandait davantage de régulation pour permettre de faire remonter les prix, parce qu'on a un véritable cercle vicieux sur le lait et la viande de porc, la chute des prix qui a enclenché une augmentation de la production et qui à son tour a enclenché une nouvelle baisse des prix. Avec nous aujourd'hui, Michel Dantin, eurodéputé UMP, membre de la commission de l'agriculture. Bonjour.
Bonjour.
Question de fond, est-ce qu'il faut réguler ou c'est surtout la France qui manque de compétitivité au niveau de son agriculture ?
C'est bien de poser la question comme ça parce que vous avez donné la réponse.
D'accord. La réponse est dans la question. Très bien. Merci Michel Dantin. Je sens que... Non, très bien. On a une demi-heure à tenir au niveau du débat. Ça va très bien se passer. Bonjour Éric Andrieux. Alors vous êtes eurodéputé socialiste. Est-ce que la France, alors on le disait, Stéphane Le Foll, il est un petit peu revenu bredouille de Bruxelles. Est-ce que la France est isolée quand elle dit qu'il faut davantage de régulation au niveau de l'agriculture ?
Écoutez, d'abord, il s'agit d'une crise de marché. Je crois que c'est au niveau de l'Union, donc on va en discuter, qu'il faut que les choses soient faites. Isolée, pas tant que ça, puisqu'il semblerait, si j'ai bien lu les comptes rendus, donc si mes informations sont justes, qu'il y a 12 États qui seraient donc sur la dynamique, finalement, ou sur les propositions faites par la France dans le mémorandum qui a été rendu lundi dernier.
D'accord, bon, bah voilà, pas tout à fait isolé, mais on est à 12 sur 28. Bonjour Jean-Sébastien Lefebvre, correspondant de Contex. Vous connaissez bien les questions agricoles. Le commissaire européen irlandais Phil Hogan en charge de l'agriculture. Quand il a Stéphane Le Foll, bon, il est imposant Stéphane Le Foll, il a une sacrée carrure, mais quand il l'a en face de lui et que Stéphane Le Foll lui dit il faut davantage réguler, il n'est pas trop sensible à ses arguments.
C'est pas forcément un grand fan, parce que Phil Hogan est quand même irlandais avec une tradition libérale, et c'est vraiment un changement de style par rapport au précédent commissaire européen, Dacian Ciolos, qui était roumain, francophile, éduqué en France, étudié en France. Et donc, du
qui
coup,
est devenu
là,
Premier ministre.
Et qui est devenu Premier ministre de Roumanie depuis. Et donc, du coup, là, il y a aussi un choc de culture. C'est-à-dire que c'est plus difficile pour la France de faire valoir une régulation puisque le commissaire européen y est moins enclin.
Bonjour Jean Quatremer, correspondant de Libération, auteur du blog Coulisses de Bruxelles. Revenons juste sur cette petite sortie. Il en a fait quelques-unes là cette semaine, Manuel Valls, le Premier ministre. Alors, on va pas parler des migrants quand il était en Allemagne. Là, on parle de sa sortie, la faute à Bruxelles. Quand il a dit la Commission fait trop peu ou trop tard. Voilà, la crise agricole, c'est la faute de Bruxelles.
Ça, on est un peu habitué avec Manuel Valls. C'est j'irais même pour tous les... De tous les gouvernements, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire, c'est toujours la faute des autres. C'est jamais notre faute à nous. Mais Valls commence à devenir une sorte de Mozart. C'est la faute à Bruxelles. Je dois dire que c'est complètement étonnant. Non, c'est pas la faute à Bruxelles. En l'occurrence, c'est la façon dont le marché français est organisé. C'est un marché qui est extrêmement fragmenté. Par exemple, vous avez, je sais plus, 7 ou 9 organisations de producteurs de porc en Bretagne, alors qu'il y en a une au Danemark. Il n'y a pas d'intégration verticale. C'est-à-dire que les producteurs ne sont pas propriétaires des abattoirs, etc., etc. Et en plus, il y a le problème de la grande distribution. Donc, c'est un problème franco-français. C'est un problème bruxellois. Et je rappelle encore une fois, le premier budget de l'Union, c'est le budget agricole. Qu'est-ce que veut Manuel Valls ? Qu'on donne davantage aux paysans et moins aux jeunes, moins aux chômeurs, qu'ils le disent.
Voilà, c'est un problème franco-français, mais ça passe par Bruxelles. C'est pour ça qu'on en parle dans 500 millions d'Européens. La régulation est-elle la solution ? Dans la deuxième demi-heure de l'émission, nos chroniques habituelles avec les coulisses de l'Europe nous sont rejoints par la pétillante Maya de la Baume de Politico qui reviendra sur la préparation, on va dire chaotique, du sommet européen ici au Parlement européen. Les préparatifs de David Cameron qui était venu juste avant le sommet ici pour tenter de préparer le terrain. Ça s'est pas passé comme il voulait. Et puis dans la revue de presse d'Eric Scholl de Courrier International, on reviendra sur le Royaume-Uni toujours, sur Verdun aussi, sur l'Irlande, tiens, décidément, après Phil Hogan, on parle beaucoup de l'Irlande, et sur l'Allemagne. Mais tout de suite, la PAC, tout de suite, les agriculteurs du lait et de la viande de porc, la régulation est-elle la solution pour réagir ? Hashtag 500ME. Alors, Éric Andrieu, vous êtes le socialiste de l'étape. Donc, finalement, c'est vous qui assumez...
Du débat.
C'est vous qui assumez la position du gouvernement. Que demande, concrètement, pour y comprendre quelque chose, que demande Stéphane Le Foll?
Ben, je crois que dans le mémorandum qu'il a déposé, il y a un certain nombre de points précis. Un, vous l'avez évoqué, c'est d'ailleurs le thème de cette rencontre, c'est la question de régulation. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on sort d'une période où le paquet lait, on va dire ça, qui était l'outil de régulation par excellence, a été supprimé. Voilà, aux grandes dames de grand nombre d'acteurs, d'ailleurs pas forcément que les socialistes ici dans ce Parlement, mais aujourd'hui la question c'est bien l'équilibre entre l'offre et la demande, de façon très claire et explicite, et donc il est important d'agir sur les marchés, c'est pas qu'un problème franco-français, je suis désolé de le dire ici, et pas uniquement à l'échelle nationale. Et que agir sur les marchés, ça veut dire quoi? Qu'il faut utiliser des outils de régulation de ce marché-là. Donc, il y a la question du stockage, dans des produits, quand il y a trop de produits, bien on les stocke, et soit on les remet sur le marché dans des secondes. C'est vrai pour le lait aujourd'hui, c'est vrai pour le porc, donc le stockage a été supprimé, on va certainement en discuter. C'est la question sur le lait de l'intervention sur le prix du lait. Donc le commissaire ne veut pas entendre pour permettre à ce qu'on résolve une partie donc de ces questions-là. C'est la question de la relation directe, je dirais donc à des mesures de régulation. Le commissaire a la possibilité d'utiliser un article, qui est l'article 219 de l'OCM unique, pour lui permettre de retirer des produits du marché.
Alors juste une question. Afin de réguler le marché, la Commission européenne avait offert de racheter et de stocker 90 000 tonnes de viande porcine. Si oui. On parle de la viande de porc, et c'était une aide qui coûtait à peu près 30 millions d'euros. Et là, il y a eu quand même un souci, parce que les éleveurs français, ils ont profité de cette aide seulement à hauteur de 2300 tonnes. D'ailleurs, même Stéphane Le Foll l'a regretté, c'est 10 fois moins que les Allemands.
Et les Espagnols également. Et parce qu'effectivement, dans le porc, soit on stocke toutes les catégories du porc, soit on stocke certaines catégories du porc. Et là, on est sur un débat très technique, où effectivement, les éleveurs, pas forcément organisés, ça j'en conviens, au niveau de la filière, ont décidé dans un premier temps de ne pas stocker, donc en fait, l'histoire des jambons, pour être précis, quoi. Alors qu'il y avait d'autres parties du porc à stocker pour permettre de le sortir donc, de l'ornière.
Michel Dantin.
Oui, je crois qu'il faut effectivement s'interroger sur les raisons de l'absence de réponse de la filière et des entreprises françaises. Est-ce qu'il y a un problème de manque de capacité de stockage en France? Est-ce que les coûts de stockage en France sont supérieurs à ce qu'ils sont dans d'autres pays européens?
Ça veut dire quoi, un manque de capacité de stockage?
Ça veut dire qu'on a de quoi stocker 100 tonnes.
On n'a pas assez de frigo.
C'est la question que je pose. Est-ce que c'est une question de stockage? Est-ce que c'est une question de coût qui, en France, n'est pas compensé par l'aide européenne? Il faut que le ministère et la filière expertise ces raisons et les rendent publiques. Parce que ça ne sert à rien de venir demander des aides à Bruxelles si nous ne sommes pas capables de les mettre en œuvre quand elles nous sont données. Il y a le même problème sur le lait. Sur le lait, nous avons stocké 2300 tonnes quand les Belges, par exemple, ont stocké plus de 10 000 tonnes de lait. Il y a un pourquoi.
Alors que d'habitude, de manière générale, il faut toujours diviser par 6 ce que les Belges font par rapport aux Français. Il y a un rapport de 1 à 6. Jean Quatremer.
D'abord, il faut savoir qu'est-ce qui est en crise actuellement. C'est pas le porc de qualité qui est en crise. C'est le porc de basse qualité. Voilà, faut dire les choses clairement. C'est le porc breton. Parce qu'à un moment, l'Union européenne a poussé à la production de porc. Et les paysans bretons s'y sont mis à tire-larigot. C'est-à-dire qu'on a produit du porc et du porc et du porc. Avec comme prix de cette surproduction de porc de mauvaise qualité, une pollution des nappes phréatiques sans précédent. Vaut mieux pas boire d'eau en Bretagne, je vous le dis tout de suite, si c'est de l'eau en plastique.
On boit pas que de l'eau en Bretagne.
Et ce porc, au lieu de prendre le virage vers le porc de qualité, comme on l'a fait par exemple dans le centre de la France, sur le plateau de Larzac ou ailleurs, ils ont continué à surproduire des porcs de mauvaise qualité. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vient de dire? Qu'est-ce qu'on vient de vous dire? On dit qu'il faut intervenir sur les prix. Je rappelle quand même que la politique agricole commune, pendant 30 ans, ça a été une régulation par les prix, ce qui a poussé à des montagnes de lait, des lacs de lait, des montagnes de surproduction de beurre, etc., etc., et de viande, et qu'on en est sorti. C'est-à-dire, si on garantit à un paysan, par exemple, qu'on va pouvoir lui acheter sa viande de porc à 1,40, qu'il va pouvoir la vendre à 1,40 € le kilo, qu'est-ce qu'il va faire? Il va produire un maximum pour vendre à 1,40. Je suis désolé, c'est le marché. Est-ce que quand les prix s'effondrent dans d'autres secteurs, on intervient sur les prix? Non. Il y a un moment ou un autre, il faut rentrer dans la logique du marché. Et les paysans français, les producteurs français, n'ont pas su le faire.
Jean-Sébastien, c'est le marché?
Il y a le marché et il y a aussi une conjoncture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué aussi de vendre à l'export parce qu'on a des restrictions avec la Russie. C'est-à-dire qu'il y a un marché qui s'est fermé.
Ça, c'est un des autres points discutés.
Donc, c'est pas uniquement.
Par Manuel Valls avec Dimitri Medvedev quand il l'a vu.
Et puis, raison, les Russes.
Mais, il n'y a pas qu'un problème, de production haute. Il y a aussi un problème d'écoulement. Donc, comment on fait quand le grand marché russe est fermé? Et là, pour l'instant, la France essaye de faire réouvrir, de faire lever les sanctions, d'amener les Russes à revoir leur position sur la viande européenne, etc. Mais ça va prendre du temps. Il y a les enjeux diplomatiques, géopolitiques en jeu. Donc là, c'est.
Et Hogan cherche actuellement à ouvrir d'autres marchés, d'où ses voyages en Amérique centrale et en Amérique latine.
Sachant que sur le port vis-à-vis de la Russie, il y a deux embargos à lever. Il y a à la fois l'embargo économique, l'embargo politique, appelons-le comme il est, et puis il y a l'autre embargo qui est sanitaire, mais qui est peut-être aussi un peu
politique.
Mais
qui est sûrement
politique, toujours. Comme toujours avec les
Russes. Les Russes régulièrement ont fermé.
Il faut quand même aussi souligner que les chiffres de 2015 sont extrêmement intéressants. Jamais l'Europe agricole n'a autant exporté, y compris d'animaux vivants, à travers le monde, qu'au cours de l'année qui vient de s'écouler, grâce à la baisse de l'euro. Et donc, il faut se poser des questions. Pourquoi la crise est plus forte en France que dans les autres pays européens? Pourquoi, par exemple, n'entend-on pas le COPPA, qui est l'organisation syndicale européenne, sur le sujet? C'est parce qu'ils considèrent que dans les autres pays européens, il y a une crise conjoncturelle qui est à gérer localement, mais qui n'est pas de leur ressort.
Alors, vous auriez pu faire un très bon journaliste, Michel Dantin, parce que depuis tout à l'heure, vous posez beaucoup de questions, mais je vois que pour vous, poser la question, c'est y répondre.
Ça vous rassure.
Hein, voilà. Alors, pourquoi la France a-t-elle un vrai problème par rapport aux autres? Parce que, clairement, les réformes n'ont pas été faites. D'un autre côté, la taille de l'agriculture en France est énorme par rapport aux autres pays européens aussi.
Jean Quatremer a un peu répondu déjà tout à l'heure. Nous avons un problème de structuration de nos filières. Nous avons aussi un problème de compétitivité des filières. Au cours des 10 années qui viennent de s'écouler, dans les autres pays européens, sans doute parce que le coût de la main-d'œuvre était moins cher, les autres pays n'avaient pas les 35 heures, il y a eu beaucoup d'investissements. D'abord dans la recherche, puis ensuite dans les chaînes industrielles. Et aujourd'hui, le coût de production tout au long de la chaîne en France est tel que cette chaîne est incapable de faire redescendre la valeur ajoutée.
Je vous propose de revenir dessus juste après une courte page de publicité. On va se poser cette question, Jean qui disait c'est un problème franco-français. Alors du coup, pourquoi est-ce qu'on doit en parler à Bruxelles si c'est un problème franco-français? Est-ce que finalement, il y a un problème d'abandon de souveraineté sur les questions agricoles et la régulation est-elle la solution? On continue d'en discuter avec Michel Dantin, Éric Andrieux, Jean Quatremer et Jean-Sébastien Lefebvre. À tout de suite.
BFM Business, 500 millions d'Européens depuis le Parlement européen à Bruxelles.
Depuis le Parlement européen à Bruxelles, où avec nos invités Michel Dantin, eurodéputé UMP, Éric Andrieux, eurodéputé socialiste, Jean-Sébastien Lefebvre de Contexte et Jean Quatremer de Libération, nous débattons des prix du lait, de la viande porcine. Comment faire remonter ces prix? La régulation est-elle la solution? Y a-t-il un problème de souveraineté, étant donné que c'est un problème devenu là clairement franco-français, mais qu'il faut passer par Bruxelles pour pouvoir trouver des solutions? Mais juste avant cette très courte pause publicitaire, j'avais coupé la parole à Éric Andrieux qui voulait nous parler des prix et des quotas.
Oui, non, c'est revenir sur les propos de Jean Quatremer, donc et sur l'histoire finalement qui est la nôtre.
Est-ce qu'il le mérite bien?
Oui, je pense qu'il le mérite. Il le vaut bien, d'ailleurs. C'est une évidence. Donc, oui, effectivement, on a connu ces grands moments où le beurre et le lait étaient stockés, mais on a inventé, c'était en 84, les quotas. Et quand on regarde la situation et qu'on reprend l'histoire, entre 1984 et 2009, il n'y a pas eu de crise laitière. Et ce n'est que dès lors qu'on a commencé à parler en 2003 à la réforme de la PAC de la volonté de supprimer les quotas et de l'affirmer en 2009 au moment de la réforme à mi-parcours finalement, que de nouveau on a eu des États qui ont triché finalement et qui ont surproduit.
Vous êtes d'accord avec ça, vous, Michel Dantin ?
On est aujourd'hui dans un contexte qui est quand même particulier. C'est que 2014-2015, c'est deux années où le monde entier a eu des conditions climatiques satisfaisantes. Et donc, il s'est produit du lait partout dans le monde. Le dépassement global de la production laitière mondiale est de l'ordre de 3%. C'est ce qu'il est en Europe.
Oui, mais entre 1984 et 2003, comme disait Éric Andrieux, a priori, il y a quand même...
2009.
Et 2009.
Je vous dirai les votes du Parlement tout à l'heure.
En 2009, les quotas laitiers ont été incapables de résoudre la crise. Ce qui veut donc dire que... Un un système de régulation est nécessaire, il faut le réinventer. Et force est de constater qu'aujourd'hui, des solutions de régulation, sur la table, il n'y en a pas beaucoup. J'en avais mis une dans l'OCM, dans l'Organisation commune des marchés, en 2013. Un certain nombre d'États s'y sont opposés. Le Conseil a mis son veto à la proposition du Parlement.
Jean-Sébastien.
Mais alors pourquoi, dans ce cas-là, si on nous dit que les quotas ont pas si mal marché que ça, les avoir supprimés? C'est la question qu'on peut demander. C'est, à un moment donné, c'est quoi le problème?
En plus, c'est intéressant. Moi, j'ai repris un peu l'histoire. Vous prenez en 2008, au moment où on révise la réforme de la PAC, donc à mi-parcours, effectivement, sur le vote, il y a un amendement posé par les sociaux-démocrates pour maintenir les quotas. Donc, toute la droite européenne vote contre. Le seul qui vote pour, c'est Joseph Daul. C'est assez intéressant.
Alors Joseph Daul, qui est UMP et qui a longtemps présidé.
Il est républicain.
Qui était UMP à l'époque et qui présidait la commission agricole du Parlement européen et qui est maintenant président de la famille UMP, le Parti populaire européen.
C'est intéressant de le lire.
Et qui est un agriculteur.
Pourquoi 2009 on ne gère pas la crise? Parce qu'effectivement, les États, c'est mon analyse en tous les cas, commençaient à construire les quotas. Et je la partage avec moi-même, bien sûr, je suis en accord encore.
Et avec nous?
Certains dans les États, si vous voulez, commencent à tricher de ne plus respecter la règle. Parce qu'on sait qu'on va vers la disparition. Et donc, il y a ce problème.
En 2009, la crise était déjà mondiale. En 2009, la crise était mondiale. Elle n'est pas que française.
Oui, mais enfin, elle était
française. Le problème, c'est qu'on a, au cours de cette dernière décennie, une mondialisation qui est vraiment rentrée dans le quotidien et qui modifie ce qui était précédemment des outils satisfaisant pour gérer les choses de manière continentale.
Oui, c'est là.
Non, mais surtout la gestion par les quotas, c'est en fait la protection des situations acquises. C'est un problème. Je veux dire, est-ce que dans une économie de marché, on peut ainsi gérer l'économie? Je suis pas d'accord. Je veux dire, c'est la même problématique qu'avec les taxis. C'est-à-dire, c'est exactement la même chose. Et à un moment ou à un autre, le système il explose. Donc les quotas, les États, pourquoi est-ce que les quotas? Même la France était en faveur de la suppression des quotas. C'est pas pour le plaisir de supprimer les quotas, parce qu'ils se rendaient compte que ça ne tenait absolument plus.
Il y a un phénomène Uber dans l'agriculture.
Il y a un phénomène
Uber dans l'agriculture.
Du beurre.
Uber.
Pardon. L'Uber de l'agriculture.
Il y a un phénomène d'Uber ou pas?
Est-ce que dans l'économie de marché,
il ne faut pas réguler?
Vous dites aujourd'hui, on est sur le port aujourd'hui, et Michel Dantel le dit également, aujourd'hui on est sur une structure allemande, donc également aux Pays-Bas, également au Danemark, où on a investi. Mm-hmm. On a augmenté donc la logique de production, mais jusqu'où peut-on aller? Et là, ça interroge le modèle agricole. Aujourd'hui, on est sur le débat en France des milles de vaches, donc l'on voit, etc. Mais quand on ouvre un petit peu la focale, qu'on regarde vers d'autres continents, on est en Chine sur des unités de 100 000 vaches. Quoi. Mmh. Est-ce que donc ça veut dire que le libre-échangisme absolu, la libéralisation sans contrôle, c'est la solution à tout le monde?
Surtout quand elle est prônée par les Chinois.
Surtout quand elle est prônée par les Chinois, exactement. Non, mais c'était une vraie question.
Mais vis-à-vis des pays
tiers. Jusqu'où on peut aller? Donc, en œuvre des régulations.
Juste vis-à-vis des pays tiers, je suis entièrement d'accord. Il ne s'agit pas de ça. Là, il s'agit du marché européen. Il y a quand même des questions qu'on doit se poser. Par exemple, pourquoi est-ce qu'en France, lorsqu'il faut que le prix du porc, le kilo de porc soit à 1,40 pour assurer un niveau de vie décent à 90% des producteurs de porc, alors qu'en Allemagne, il suffit que le porc soit à 1,04. Et je crois que c'est exactement la même chose dans le domaine du lait, etc. Et pourquoi? Parce qu'en Allemagne, la charge en matière de la dépense publique, ça représente 43% du PIB. Et en France, c'est 53%. C'est-à-dire que toute la chaîne est massacrée par des impôts. C'est ça le problème fondamental.
Donc, c'est la baisse des charges, c'est la solution?
Bah, les charges, c'est aussi les dépenses publiques.
C'est pas que ça. Jean-Sébastien. Dans le débat qui est actuellement au niveau européen, c'est que par exemple aujourd'hui, dans les revendications des agriculteurs français, c'est clairement dire il faut imposer des normes aux Allemands parce que les agriculteurs français accusent les Allemands d'avoir
un pouvoir travailleur. Les autres, c'est une solution facile.
Il faut d'abord s'occuper
aussi.
Le phénomène du travailleur détaché n'est pas innocent. Moi, je veux dire,
nous sommes les troisièmes pourvoyeurs de travailleurs détachés en Europe.
Bien sûr, mais on les envoie vers le reste de l'Union européenne. Donc, si effectivement les Allemands arrivent à produire moins cher, c'est aussi parce qu'ils utilisent l'astuce du travailleur détaché.
Non. Alors c'est le discours syndicaliste de base.
Ne vous laissez pas démonter, Jean-Sébastien Lefebvre.
Je suis désolé parce que le vrai problème, encore une fois, c'est l'organisation de la filière, le fait que les producteurs ne soient pas propriétaires des abattoirs, qu'ils sont tellement divisés qu'ils n'arrivent pas à imposer leurs conditions à la grande distribution. Et enfin, les impôts. Il faut dire que c'est une réalité. Tout le monde se fait massacrer tout le long de la chaîne.
Les Allemands, du coup, Christian Schmidt, qui est le ministre, qui est l'homme l'homologue de Sébastien, de Stéphane Le Foll, pardon.
Sébastien.
De Stéphane Le Foll en Allemagne. Lui, en gros, il dit à Stéphane Le Foll, bon, je suis bien d'accord avec vous, oui, on partage les constats, mais il n'a pas du tout la solution. Il ne veut pas en entendre parler, lui.
Mm-hmm. Ah non, mais lui, après, il défend son agriculture aussi, moi.
Il a déjà son
pays. Lui, il a tout investi.
Les autres
pays. Comment ça se fait que les Allemands, eux, aient investi et que les Français n'aient pas investi?
Les autres pays européens.
Permettez-moi juste de poser cette question de base. Pourquoi?
Les autres pays européens nous disent, faites d'abord des réformes structurelles chez vous, financez cette réforme des structures, et ensuite, bien, si vous avez encore un problème, on vous aidera. Nous avons fait nos efforts. Je crois que
donc on peut financer les réformes des structures. Pardon, juste pour bien comprendre, ça veut dire quoi? Ça englobe quoi?
Ça veut dire qu'il faut notamment au niveau des organisations de filières trouver un certain nombre de crédits publics et privés. Mm-hmm. Il faut aussi que les acteurs de la filière se mobilisent
pour investir dans quoi?
Pour investir dans l'évolution. Se structurer, ça
là
veut
où
dire...
ils sont un, si vous voulez, en gros, on prend la Bretagne aujourd'hui, là où ils sont un, ils sont... Parce qu'en fait, on a exacerbé le phénomène de concurrence,
ouais.
Donc je crois que le monde va vite autour de nous, donc je crois que la capacité des filières n'est pas prête à s'organiser. C'est mal français. Donc ça veut dire, là où ils sont un, il faut qu'ils arrivent à se regrouper. Moi, je pense à l'échelle des bassins de production. Voilà. Il faut que les organisations de production s'organisent à l'échelle des bassins de production pour qu'ensemble, ils puissent négocier. Avec l'amont, d'ailleurs, de la filière, ceux qui viennent accompagner les éleveurs, voilà. Donc. Et avec l'aval de la filière. On parle beaucoup de la distribution, mais si vous allez voir un distributeur tout seul, ben vous allez négocier difficilement les prix. Si vous y allez avec une certaine masse, vous allez négocier différemment les prix.
Donc pour vous, là, c'est une question avant tout d'organisation et de structure. C'est pas juste une question d'investissement dans les exploitations.
Mais il y a un autre élément. Nous avons besoin de moderniser les outils de transformation.
D'accord.
L'industrie agroalimentaire, on a tendance à la résumer souvent à quelques grands capitaines. Mais en fait, celle qui fait la valeur ajoutée dans les territoires, c'est un réseau de PME. Or, ce réseau de PME connaît aujourd'hui un véritable problème de transmission. Et dès lors que les problèmes de transmission ne sont pas ou mal réglés, il n'y a donc pas d'investissement dans les ateliers depuis plusieurs années. Résultat, les coûts de production pour faire un pâté, pour faire un jambon, etc., sont plus importants que ce qu'ils sont en Allemagne, ce qu'ils sont aux Pays-Bas, etc. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. La chaîne est incapable de transférer la valeur ajoutée jusqu'à son...
Jean-Sébastien.
Après, ce qu'on pourrait aussi voir, c'est que le budget européen qui a été évoqué par Jean Quatremer est effectivement en grande partie consacré à l'agriculture, c'est 40%. Mais ce qu'il faut voir, c'est que dans ces 40%, il y a très peu d'argent qui va finalement aux éleveurs de porc et au milieu, au secteur laitier. La grande partie de l'argent reste pour les céréaliers. Qui sont finalement, quand on regarde les chiffres, les agriculteurs qui gagnent mieux leur vie en France.
Il n'y a pas de réforme question de la PAC, on quand même...
Sur l'abandon, un petit peu, mais sur cette question sur l'abandon de souveraineté, parce que donc quand Stéphane Le Foll est revenu, entre guillemets, bredouille de Bruxelles, enfin quand on dit bredouille, Phil Hogan, le commissaire européen, a promis de se rendre à Paris, là, cette semaine, juste avant le salon de l'agriculture, j'imagine qu'il devait venir de toute façon, et puis que à la mi-mars, au prochain Conseil des ministres de l'agriculture, et bien ces questions seraient tranchées.
S'il n'est pas au salon de l'agriculture, Phil Hogan, moi je l'admire, parce qu'il va falloir qu'il entre et qu'il en sorte intact.
Abandon de souveraineté. Donc, si c'est un problème franco-français, non. Est-ce que c'est une bonne chose qu'on le règle au niveau européen? Juste pour répondre à cet argument-là.
Il y a les deux,
Michel Dantin. Les Républicains
doivent être mis en parallèle. Il y a des questions franco-françaises de compétitivité qui doivent être réglées, et il y a des questions européennes. L'Europe, je le redis, Bruxelles n'est pas une sous-préfecture de Paris. Bruxelles, c'est un endroit où il faut être présent, c'est un endroit où il faut négocier. Il faut aller faire de la diplomatie, il faut aller faire le tour des capitales. Bon, nous avons besoin que ce travail soit mieux fait, soit plus fait, par tout le monde en France, par tout le monde, y compris par les responsables professionnels.
Oui, moi je partage ce village. Je crois qu'il y a deux enjeux. Il y a un enjeu franco-français, il y a un enjeu européen. La base de la crise, je le redis, c'est une crise de marché. Et ça se traite pas à l'échelle nationale, à l'échelle européenne. Il n'empêche pas moins qu'effectivement, au niveau de la filière, il y a une nécessité d'organisation de la filière. Mais dès lors qu'on parle de charges, vous savez, on est arrivé, puisque donc c'est mon gouvernement où il y avait un effort sur les charges de 800 millions d'euros, je crois que le ministre l'a rappelé. Aujourd'hui, sur l'effort sur les charges, on est à plus de 1,9 million d'euros.
Vu ce que vous avez augmenté depuis 2012, c'est pas étonnant si l'ardoise est un peu plus lourde.
Vous attendez ça.
Regardez qui était responsable quand on a attaqué la crise. Je crois qu'il y a 20 minutes qui s'appelait Michel Barnier de mémoire, donc à ce moment-là. Et on pourrait regarder dans le détail qui a fait quoi, qui a voté quoi pour nous mettre dans une situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Parce que les questions
Michel
du
Barnier,
moment.
Michel Barnier, il y a 5, 7 ans qu'il est plus ministre d'Agriculture.
Les questions du moment, justement.
Donc il s'est passé un certain nombre de choses depuis.
C'est-à-dire, effectivement, je pense qu'il faut bien regarder de ce dont il s'agit pour pouvoir agir.
Merci beaucoup, Éric Andrieux, député socialiste, d'avoir été avec avec nous. Merci beaucoup à vous, Michel Dantin. Je suis désolé, je vous ai qualifié d'eurodéputé UMP, je crois, à deux ou trois reprises.
Ça fait rien,
c'est comme
fait
si
rien.
Je disais FR3 ou Antenne 2, ou c'est comme si je parlais encore en franc, quoique peut-être que j'ai
pas,
un coup d'avance, peut-être qu'on pourrait y revenir.
Les agriculteurs auront compris. Va,
les Républicains, Michel Dantin, vous restez avec nous, vous, Jean-Sébastien Lefebvre de Contexte, et puis vous aussi, Jean Quatremer de Libération, parce que Maya de la Baume va nous rejoindre, et puis aussi Éric Scholl de Courrier International. À tout de suite après le journal.
BFM Business, 500 millions d'Européens, avec Euranet Plus, Yann Anthony Noguès.
Merci de nous retrouver pour cette deuxième demi-heure de 500 millions d'Européens, toujours ici dans ce magnifique studio de l'Assemblée parlementaire européenne, dans la capitale européenne, Bruxelles. Nous sommes toujours avec Jean Quatremer de Libération, Jean-Sébastien Lefebvre de Contexte, et nous a rejoint Maya de la Baume de Politico. Bonjour,
bonjour
Maya.
Bonjour.
Alors, dans vos coulisses de l'Europe, nous allons parler de David Cameron. On en a déjà beaucoup entendu parler cette semaine de David Cameron avec ce sommet spécial au Royaume-Uni. Ils adorent être au centre de l'attention, les Britanniques, c'est ce qu'on partage d'ailleurs avec eux, je pense. Maya de la Baume, on va revenir, surtout vous, effectivement, Jean Quatremer. Et donc, on va revenir sur les coulisses, parce que vous suivez en particulier ce qui se passe au Parlement européen. On va revenir sur les coulisses des préparatifs de ce sommet. Et David Cameron, qui était venu à Bruxelles juste avant le sommet, il s'est un peu pris les pieds dans le tapis, hein, ici au Parlement.
Oui, il s'est mis dans de beaux draps, le pauvre David.
Pourquoi ?
Parce que ça fait 6 mois que le Parlement lui demande de venir et qu'il vient, mais il vient pas d'une façon, dans un format un peu compliqué. Enfin bon, et il annule à la dernière minute la conférence des présidents.
Voilà, bon, c'est ça. Il a annulé une réunion en dernière minute. On va y revenir parce que c'est quand même assez intriguant, cette histoire. Et nous a rejoint cette fois-ci en image. D'habitude, c'est par téléphone. Maintenant, on a droit à l'image. Bonjour, Éric Scholl.
Bonjour Yann Anthony.
Alors, le directeur de la rédaction de Courrier International, c'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous. Qu'est-ce que vous nous avez préparé de bon dans votre revue de presse cette semaine? Je crois que du côté allemand, les journalistes ne sont pas très contents contre le Premier ministre français.
Oui, ils lui en veulent beaucoup et d'ailleurs ils disent visiblement la serviabilité française a ses limites. Et pendant le bec pour notre Premier ministre français.
Voilà, la serviabilité française à ses limites. Bon, nous, on le savait déjà. Hein. Ça faisait longtemps qu'on le savait. Voilà, on va parler de David Cameron ici à Bruxelles qui s'est un petit peu pris les pieds dans le tapis. Et puis ensuite, on va revenir sur le Royaume-Uni, sur Verdun, sur l'Irlande, sur l'Allemagne et aussi sur la Croatie dans le cadre de la revue de presse de Courrier International pour réagir. Hashtag 500ME.
BFM Business, avec 500 millions d'Européens, pénétrés dans les coulisses de l'Europe.
Voilà, on pénètre dans les coulisses de l'Europe grâce à Maya de la Baume. Bon, alors expliquez-nous, David Cameron, bon, on sait qu'il y a eu le sommet, mais avant ça, il y a eu les préparatifs ici, notamment au Parlement européen. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Bah, il s'est passé beaucoup de rebondissements,
oui.
Beaucoup de rebondissements avec alors. David Cameron. En fait, il a été invité par le président du Parlement européen. Ça fait 6 mois que ça dure. On demande David, tu viens pas au Parlement européen. Donc, on sait qu'il aime pas tellement le Parlement européen et qu'il avait pas tellement envie de venir dans le fond.
Mais... Alors que les Britanniques, au départ, c'est un régime ultra-parlementaire et ils ouais. aiment parler devant le Parlement. Ils ont beaucoup de respect, en tout cas, à Westminster pour le Parlement. Mais là, il n'a pas la même approche vis-à-vis du Parlement européen.
Oui, en fait, il devait venir en session plénière, donc la session avec les 758 députés qui sont autour dans l'hémicycle. Il n'est pas venu, mais il a dit qu'il viendrait donc pour la conférence des présidents, qui est un peu cette réunion à huis clos de tous les présidents des groupes. C'est la réunion importante ici et tout le monde était très content quand même. Le Saint des Saints. Et au dernier moment, le dernier rebondissement, c'est qu'il a dit « Ah ben non, finalement, je préfère rencontrer directement les présidents de groupes dans plusieurs réunions bilatérales », ce qui fait que pas de groupe des Verts, pas Nigel Farage, leader de UKIP. Alors tout le monde s'est dit, mais
ça,
pourquoi
surtout,
est-ce que...
C'est pas, c'est pas pour les Verts, il a pas peur des Verts. Mais il ne
pas
voulait
peur
pas
des Verts,
avoir
mais...
face à lui Nigel Farage.
Et Marine Le Pen.
Ni Marine Le Pen. Pourtant, ouais. Marine Le Pen, Nigel Farage, lui, c'est un adversaire politique farouche sur la scène britannique. Parce que Nigel Farage, qui dit les différentes ouais. concessions qu'il a pu obtenir, c'est pitoyable, ça ne sert à rien. Mais en revanche, Marine Le Pen, Jean-Sébastien Lefebvre, elle a plutôt tendance à s'aligner sur les positions de David Cameron maintenant. Elle est plutôt en train de dire, regardez ce que fait David Cameron. Nous, le FN, on ferait à peu près la même chose.
Je pense que Marine Le Pen a envie de s'identifier à David Cameron sur le Brexit et la négociation, mais je pense pas que David Cameron ait envie qu'on l'identifie à Marine Le Pen, parce que faut voir qu'au front, au Royaume-Uni, le Front National est toujours perçu comme un parti d'extrême droite, avec des origines qui remontent à la guerre d'Algérie, etc. Donc il n'y a pas du tout cette dédiabolisation qu'on peut avoir en France. Et c'est pour ça aussi que le principal leader eurosceptique, Nigel Farage, refuse de s'allier avec Marine Le Pen au Parlement européen, alors que s'ils étaient tous les deux, ils auraient un groupe de 70 députés, deux fois ce qu'ils ont aujourd'hui.
Jean, vous êtes sur cette ligne ?
De toute façon, quand vous dites que le Front National n'est pas diabolisé, c'est tout à fait exact. On le qualifie même de fasciste en Grande-Bretagne. Alors qu'en France, on n'ose plus le dire.
Oh, allons.
Ah, je vous le dis.
Nous, on n'a même plus le droit de dire extrême droite. Bon, Maya de Labo, mais réellement, quel est le poids? Pourquoi est-ce que David Cameron aurait des comptes à rendre au Parlement européen?
Parce qu'en fait, le Parlement européen, il est quand même important, puisque même s'il n'a pas fait partie des négociations et il n'est pas à l'origine du texte qui a été présenté par Donald Tusk et Cameron, il sera amené à voter, à débattre sur certains points de la proposition de réforme et notamment sur l'aspect prestation sociale des immigrés.
D'accord, parce que ça fait partie des quatre réformes. Jean Quatremer.
Oui, parce que en réalité, ce que fait Donald Tusk et ce que vont faire les chefs d'État et de gouvernement...
Le président polonais qui préside le Conseil européen.
En fait, il tente de forcer la main du Parlement, c'est-à-dire que le Parlement s'engage avant même la discussion de la future directive qui permettrait aux Britanniques, si jamais ils votent oui, décident de rester dans l'Union européenne, donc de discriminer entre les citoyens européens et les citoyens britanniques, donc leur interdire l'accès à certaines prestations sociales. C'est un truc incroyable, jamais vu, et qu'un Britannique ose demander ça à une assemblée parlementaire, et il a beaucoup de respect effectivement pour son Parlement, mais il considère manifestement que le Parlement de l'Union européenne, c'est un mentoustan. Faut dire les choses comme elles sont, c'est-à-dire en clair, vous allez vous engager avant à voter un texte, c'est-à-dire pour votre propre troupe, où la discipline de vote, on s'est dit ici qu'au Parlement, la discipline de vote, elle n'est pas stricte comme en Grande-Bretagne ou en France, et vous allez vous engager parce que je puisse faire mon référendum chez moi.
C'est pour ça d'ailleurs que Martin Schulz, le président du Parlement européen, le socialiste allemand, a dit, attendez, moi, je ne peux pas vous promettre quoi que ce soit quant au vote
mais
du Parlement européen.
Mais s'il était venu expliquer ça devant l'Assemblée plénière, il se serait fait huer, et il le sait. C'est pour ça qu'il préférait des petites réunions dans des petites pièces, bien à l'abri. C'est parce que ce qu'il est en train de faire, c'est purement ce que vont faire les chefs d'État et de gouvernement, ce que vont faire les chefs d'État et de gouvernement et ce que font les chefs de groupe, c'est proprement scandaleux. C'est un viol de la démocratie.
Jean-Sébastien Lefebvre.
Ce qui est intéressant de voir, c'est que David Cameron a toujours reproché, et les Britanniques reprochent toujours à l'Union européenne de ne pas être assez démocratique.
Voilà.
Et que là, aujourd'hui, alors qu'elle est un petit peu sur certains sujets, il demande en fait qu'on la mette en veilleuse. En gros, c'est-à-dire on va la mettre de côté, etc. Donc c'est tout le paradoxe de cette discussion et de ces débats qu'on a depuis 6 mois sur le Brexit. C'est qu'en gros, là, est-ce que veut David Cameron, c'est une sorte d'accord
officiel. Donc première incohérence des Britanniques. En 2004, c'était les premiers à dire qu'il fallait que tout le monde rentre dans l'Union européenne pour avoir le plus grand marché possible.
Et que tous les travailleurs,
etc. Et puis maintenant, ils pleurent en disant on a trop de Polonais chez nous.
Exactement.
Deuxième incohérence, c'est de se dire nous on veut sortir de l'Union européenne. Enfin, lui, il le dit pas, David Cameron, mais les Britanniques veulent sortir de l'Union européenne alors que ça va, pour utiliser un belgicisme, ça va les déforcer, ça va les rendre moins forts sur la scène internationale, et peut-être même que les Écossais pourraient du coup vouloir un référendum d'autodétermination et partir. Donc du coup, le Royaume-Uni se retrouverait à poil. Et troisième incohérence, alors que eux disent toujours ces eurocrates, ces technocrates bruxellois qui c'est un déni de démocratie, là ils nous offrent à nouveau un déni de démocratie. C'est ça en gros.
C'est ça. Les trois grands paradoxes.
Est-ce qu'il y a une part de cohérence? Je me tourne vers vous, Maya de Labo. Est-ce qu'il y a une part de cohérence dans ce que nous font dans le grand barnum des Britanniques en ce moment?
Il n'y a pas beaucoup de cohérence.
Non, mais c'est d'ailleurs pour ça que l'accord négocié n'a aucun sens. Je veux dire, on aurait très bien pu dire aux Britanniques « fuck you », parce que ça aurait été la même chose.
C'est quand même ce qui a été un petit peu dit là, cette fin de semaine.
En l'occurrence, ils feront leur campagne référendaire sans tenir compte de ce qui a été convenu à Bruxelles. Parce que le problème britannique est un problème britannico-britannique. C'est leur rapport à l'Europe. En fait, ils vont essayer de solder, je dirais, 1000 ans d'histoire. l'histoire, d'essayer de se dire, est-ce qu'on est en Europe, en dehors de l'Europe, est-ce qu'on a notre place au sein de l'Europe? C'est un truc qui ne regarde que. On pourrait faire la danse du ventre devant les électeurs britanniques, ça ne changerait rien.
Bah, surtout vous, je pense.
Ah, vous avez tort. Est-ce que vous m'avez vu danser?
Un diplomate m'a dit.
Je vais vraiment tout raconter.
Un diplomate m'a dit cette semaine, vous savez, quand on fait un référendum, les électeurs ne répondent pas à la question, mais répondent à ceux qui posent la question. Ouais. Et c'est exactement ce qui va se passer avec le cas du Brexit. Ça veut dire les Britanniques ne vont pas répondre à l'Europe, ils vont répondre à leur propre classe politique et à toutes les défaillances qu'il peut avoir dans leur vision des choses.
Voilà pour notre ami, merci beaucoup, Maya de la Baume de Politico. Direction tout de suite l'Irlande, le Royaume-Uni encore, la Croatie et l'Allemagne avec vous, Eric Scholl. C'est parti pour la revue de presse européenne.
BFM Business, 500 millions d'Européens, la revue de presse.
Alors d'abord, parlons, Eric, en ce week-end de commémoration du centenaire de Verdun. En tout cas, les Britanniques reviennent sur cette actualité.
Oui, c'est le New Statesman hebdomadaire de Londres qui a consacré sa une à ce centenaire. Centenaire qui a donc lieu, c'est la bataille de Verdun, c'était le 21 février 1916. Et donc, c'est un grand dossier, c'est un très beau dossier du New Statesman qui parle de la bataille la plus atroce de l'histoire. Alors, un tout petit bémol quand même par rapport à ce dossier, c'est que lorsque on parle de la plus atroce de l'histoire ou de la pire de l'histoire, quand on se souvient de ce qu'a été la bataille de Stalingrad en 1943, il n'y a pas de commune mesure, hein, même si évidemment Verdun a été un massacre, 300 000 morts à Verdun, mais 1 million de morts à Stalingrad en 1943.
Jean, vous qui êtes l'historien de l'époque, Verdun, c'est le symbole de la réconciliation franco-allemande pour les Allemands.
On trouvera toujours des batailles, effectivement, où il y a un plus grand nombre de morts. Mais c'est la première, c'est vrai que c'est le symbole de la guerre industrielle, Verdun. C'est pour ça que ça reste fort. Bien plus que Stalingrad. D'ailleurs, c'est là où on a utilisé l'artillerie, où la vie des êtres humains ne comptait pour rien, où c'était, on les envoyait devant, ça servait de chair à canon. Et c'est ça qui a marqué les mémoires collectives. C'est vrai que Stalingrad, dans le même genre, ça a été tout aussi horrible comme bataille. Mais toutes les batailles sont horribles. Moi, je connais pas des batailles sympathiques, hein. Mais Verdun, ça reste comme quelque chose qui a marqué durablement nos mémoires. Vous savez, moi, j'ai été souvent visiter le champ de bataille de Verdun. Aujourd'hui, un siècle après, je vous assure que ça sent encore la mort, ça sent encore la guerre. C'est impressionnant. D'ailleurs, le paysage est totalement ravagé. J'ai jamais vu un espace où le paysage était encore ravagé un siècle
après.
Quand
vous vous promenez à Waterloo, ici,
Waterloo,
à Bruxelles.
Je connais pas.
D'accord, ça, vous connaissez pas. Direction la verte Irlande, à présent, avec vous et Eric, où les journalistes sont dans le viseur des criminels. Expliquez-nous ça.
Oui, c'est le Irish Independent qui a consacré sa une à ce sujet. Et alors, en republiant une photo d'une journaliste de son propre journal qui a été assassinée il y a 20 ans. Elle s'appelait Véronica Guérin. Et pourquoi on se rappelle de ce... Et pourquoi? Parce qu'elle avait été assassinée par une organisation criminelle, une mafia, il y a 20 ans. Et aujourd'hui, on est en train d'assister à nouveau à des pressions auprès des journalistes, tous ces journalistes qui s'intéressent à des faits divers, plus que des faits divers. Hein. On a vu plusieurs assassinats dans les rues de Dublin organisés par des organisations criminelles liées à des trafics de drogue entre l'Espagne et l'Irlande. Et c'est pour ça que ce journal a choisi de défendre ces journalistes parce qu'ils font ce travail de révéler ces trafics et ils font leur travail de journaliste.
Ils font leur travail de journaliste. Même pas peur. Jean-Sébastien Lefebvre.
Mais ça s'inscrit dans la tendance actuelle en Europe où on voit que exercer le travail de journaliste est de plus en plus compliqué. On a eu Charlie Hebdo en France, on a ça en Irlande. On voit la même chose aussi avec des actions des gouvernements qui essaient de limiter la liberté de la presse. On va dire que ça devient vraiment plus en plus compliqué.
Sauf que pour moi, c'est une découverte, hein, ce qui se passe en Irlande, parce que je ne savais pas que l'Irlande, c'était comme la Sicile, c'est-à-dire on a assassiné les journalistes. Pour moi, alors là, je tombe de ma chaise.
On a les mêmes menaces en Roumanie, en Bulgarie, quand les journalistes s'intéressent aux magnats financiers, aux trucs de corruption, etc. Donc, c'est, en Irlande, ça peut surprendre un peu plus, mais ça existe dans d'autres pays européens.
Bah, il y a de la bombe.
J'ai vu que Reporters sans frontières avait déjà un baromètre sur le nombre de journalistes tués là, en 2016, et c'est déjà 8 personnes. Et tu te dis juste, ça fait un mois. Partout.
Dans le monde, dans le monde, oui.
Eric, Reporters sans frontières, vous avez votre baromètre.
Oui, Nous, on avait vu les chiffres sur l'année 2015 qui étaient déjà terribles. Je sais qu'en 2016, la France va baisser, va perdre des points parce que dans le prochain baromètre qu'on sortira, il y aura malheureusement tous ces journalistes de Charlie Hebdo qui seront comptabilisés. Donc la France va reculer dans ce baromètre-là de la liberté de l'information.
Voilà, je rappelle que vous présidez, vous, Éric Scholl, la section France de Reporters sans frontières. Vue d'Allemagne à présent, où les réfugiés quand Paris douche les espoirs de Merkel.
Oui, vous savez, c'est Manuel Valls a fait une sortie donc le week-end dernier en marge de la conférence de Munich et il a dit à ce moment-là qu'il n'était pas favorable à ce mécanisme de répartition des réfugiés au sein de l'Union européenne. Bah, autant dire que cette remarque elle n'est pas passée inaperçue dans la presse allemande. Le Tagesspiegel parle d'une position politiquement explosive de la part du Premier ministre français. Mais c'est pas le seul journal. Il y a beaucoup de journaux qui ont repris les propos du Premier ministre français et franchement, ils sont extrêmement déçus. Je vous cite la Tageszeitung qui écrit. Au moins de la part de la France, le gouvernement de Berlin aurait pu espérer un peu plus de solidarité. Et le journal poursuit, c'est dur, c'est vraiment, c'est dans le besoin qu'on reconnaît ses vrais amis, mais visiblement, la serviabilité française a ses limites. Autant vous dire que ces propos donc, ont été très très mal appréciés dans la presse allemande. Ils étaient destinés certainement à un public français. Ils ne sont pas passés inaperçus là-bas.
Alors qu'il était en train de, ou il venait de visiter un camp de réfugiés en plus en Allemagne, Manuel Valls, il a manqué peut-être d'un petit peu de délicatesse sur ce point-là. C'est un peu comme si, j'en sais rien moi, Wolfgang Schäuble venait en France, allait se rendre dans une banque en France et en sortant parlait aux caméras et en disant eh, la situation économique du pays là, c'est quand même pas terrible. C'est un peu ça, Jean-Sébastien Lefebvre.
Il y a un peu ça, mais dans la réaction de la presse allemande. Que j'ai pu voir, ça m'a fait penser aussi à la réaction de la presse française après l'intervention française au Mali ou autre, où la France y va, elle fait quelque chose et elle est suivie par personne. Et là, les Allemands, c'est pareil. En août dernier, ils ont dit on va accueillir des réfugiés et il n'y a personne qui les suit et même pas le grand allié, la grosse nation, qui finalement va derrière. Donc c'est une sorte de désillusion, mais qui, d'un point de vue français, on peut se dire finalement, vous avez choisi de prendre les réfugiés. Nous, en France, on n'a pas choisi, comme pour les interventions militaires. Et quand on reprend le discours de Merkel et d'Hollande de Strasbourg il y a 6 mois, quand ils ont parlé tous les deux...
Le grand discours.
Le grand discours, c'était très clair. Hollande a parlé opération extérieure, Hollande, il a parlé intégration de la zone euro, Merkel, elle a parlé réfugiés. En gros, ils se sont répartis les sujets, et là... Ce que dit Manuel Valls, bon, il y a cette idée de FN, c'est-à-dire qu'on veut pas faire le jeu du FN, donc les Français ne veulent pas prendre de réfugiés, ça c'est une autre question politique, éthique, morale, ce qu'on veut. Mais on va dire au point de vue de la répartition des rôles, c'est très clair entre la France et l'Allemagne, et il n'y a pas de solidarité sur ce sujet.
Mais moi, ce qui m'amuse, c'est lorsqu'on entend Manuel Valls, Premier ministre français, expliquer l'Europe ne veut plus de réfugiés. En l'occurrence, en France, il n'y en a pas. L'augmentation du nombre de réfugiés en France est juste ridicule. Les réfugiés ne veulent pas venir chez nous. Ouais. Ils ne veulent pas venir dans un pays où les électeurs votent à 30% pour le Front National. Et la question que je me pose, moi, c'est sur le pouvoir en France. Qu'est-ce que ça révèle ? C'est que il y a manifestement un problème entre le président, pour savoir qui dirige, entre le président de la République et Manuel Valls. Est-ce que c'est au Premier ministre d'aller dire à la chancelière allemande que la France ne votera pas en faveur du mécanisme de répartition ? Ça, normalement, c'est le président de la République qui le dit. C'est-à-dire que si un Premier ministre du temps de François Mitterrand, par exemple, avait fait ça, le Premier ministre, il sautait. Il
sauf
pouvait
en cohabitation.
Pas. Sauf en cohabitation. Mais là, il pouvait pas. Et là, clairement, on voit de plus en plus Manuel Valls prendre des positions dans des domaines qui relèvent du domaine réservé du président de la République.
Et qui parle au nom de l'Europe, en plus. Et en qui disant, parle... l'Europe n'accepte plus de...
Voilà, c'est ça. C'est, vous savez, un journaliste néerlandais avait qualifié Manuel Valls, après l'état d'urgence, de caudillo de Matignon. Moi, je vois plutôt un Napoléon de Matignon, parce que...
Voilà, de quoi. On y revient à Waterloo, et c'était visiblement son Waterloo sur ce coup-là. Merci beaucoup, Éric Scholl, patron de la rédaction de Courrier International, pour votre revue de presse. À la semaine prochaine, si vous le voulez bien. En tout cas, on est ravis de vous avoir en image maintenant. Merci Maya de la Baume pour vos coulisses de l'Europe. Merci Jean-Sébastien Lefebvre, correspondant de Contexte. Merci Jean Quatremer, correspondant de Libération et du blog Coulisses de Bruxelles. On se retrouve la semaine prochaine. Tiens, la semaine prochaine, émission spéciale. Nous serons avec Pierre Moscovici, qui se rend en Principauté de Monaco pour y signer un accord sur le secret bancaire. Merci Maya, merci Eric, merci Jean, merci Jean-Sébastien, merci beaucoup à toutes les équipes du Parlement européen pour ce magnifique studio. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. D'ici là, bonne fin de week-end à l'écoute de BFM Business.
BFM Business, 500 millions d'Européens, l'émission qui va voir ailleurs.